¡Chocolate!
Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h58 à l'affiche. Il était une fois Henri Cueco au papou dans la tête.
L'histoire de la peinture dans le siècle montre que les artistes ont expérimenté souvent le pas grand-chose et le rien du tout, si l'on pense au carré blanc sur fond blanc de Malevitch et aux nombreuses récurrences du monochrome blanc, peinture suicidaire d'ailleurs souvent peinte au pistolet. Ces petits riens font penser à la force de ces petites choses que l'on absorbe chaque jour, par exemple la petite pilule que je prends chaque matin pour la mémoire. Elle est si petite qu'elle m'échappe des mains. Je la cherche sous la table, je me cogne en me relevant, et je me souviens ensuite de l'avoir prise en me touchant l'arrière de la tête. Ce qui montre que cette petite chose agit instantanément sur mon cerveau en stimulant la mémoire.
Henri Cueco, peintre, professeur aux Beaux-Arts, écrivain. Lire, regarder avec délice, dialogue avec mon jardinier, le journal d'une pomme de terre, dessine-moi un bouton ou son inventaire des queues de cerises. Henri Cueco, papou historique, entré dans la bande de Bertrand Jérôme en 1984, comme François Kardec, comme Pierre Loucky, Patrice Delbourg ou Patrice Minet. Henri Cueco arrivait au studio avec sa petite mallette noire, d'où il sortait ses textes papous, manuscrits, d'une jolie écriture appliquée presque enfantine. Au nouveau venu, il se présentait d'un claironnant Cueco. Tout le monde l'appelait Cueco. Moi, je disais Henri. Il aimait la provocation, mais il avait la fraîcheur, la malice qui permet de tout dire sans jamais être lourd. Une voix chaude avec la tendresse et le sourire. Il nous a quittés en mars dernier, alors j'ai eu envie de prendre le temps de rassembler mes souvenirs et nos archives des Décraqués et des Papous dans la tête pour ce numéro spécial. Un numéro des Papous à podcaster sur franceculture.fr et dédié à Marinette, sa femme, et à ses fils Pablo et David. Allez, c'est parti. Un samedi soir de juin 98 au studio 104. Au micro, Bertrand Jérôme.
Alors, Henri Cueco, vous nous faites le plaisir de venir jouer avec nous souvent. Mais avant tout, vous êtes peintre. Et nous aimerions vous entendre parler un peu peinture de temps en temps.
Ex-professeur de dessin, parvenu à l'âge de la retraite pour la raison la moins honorable du monde, n'allez pas imaginer un harcèlement sexuel dont j'aurais été l'objet. Non, mais pour mon âge, cette ignominie dont on ne peut prétendre qu'elle est méritoire. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre au service des élèves des générations à venir en écrivant pour eux une méthode de dessin dont pour ce jour vous allez être les élèves. J'ai imaginé une méthode universelle insensible aux aléas politiques ou religieux, une méthode parfaitement neutre et qui ne serait pas de nature à froisser les sentiments nationalistes. Nous essaierons donc de nous débarrasser de notre fâcheuse habitude, qu'a eu ma génération, de nous mêler de politique. L'art politique engagé ne montre pas le côté sublime des choses, le bonheur tranquille des familles, la beauté du travail manuel, les perspectives de l'euro. Aussi, nous avons choisi pour notre leçon d'aujourd'hui un modèle de faible implication idéologique et inoffensif selon la morale, le petit pois.
Montrez le petit pois, oui. Voilà, tout le monde l'a vu.
À toutes les questions que pose le destin du petit pois, vous pouvez, au choix, donner une réponse mystique. D'où vient-il? Ou matérialiste? Où va-t-il? Soyons réalistes. Soyons réalistes, la plupart de nos petits pois iront dans la cocotte. Une jardinière de petits pois avec du lard, quelques pommes de terre nouvelles, des carottes pour la couleur brique qui s'accordent si bien au vert des petits pois. Le petit pois a l'avantage d'être un modèle simple, de bonne composition, peu encombrant. Il a la vertu radiophonique de mettre sur pied d'égalité le spectateur de l'émission qui ne voit rien et l'auditeur qui, s'il entend, ne voit rien non plus. Nous l'avons choisi comme modèle pour nos étudiants tout au long de leurs études. Naturellement, les difficultés seront graduées. Quelques observations. Qu'il soit de face ou de profil, le petit pois ne change pas d'aspect. Il est sphérique et il n'existe pas un seul autre objet au monde qui présente cette particularité. En réalité, Le petit pois n'est pas exactement sphérique. Il a sur sa surface la trace d'un pédoncule par lequel il était rattaché à l'intérieur de la gousse. Mais nous ne tiendrons pas compte de cette séquelle de son étape captive. Nous avons libéré notre petit pois, mais n'insistons pas sur la force symbolique de cette libération. Nous ne traiterons pas non plus cette année le petit pois en groupe. L'analyse qui part de l'étude de la gousse se fera dans un cycle supérieur. Nous n'aborderons pas non plus le thème du pois cassé. Déjà que je risque de vous lasser avec des pois entiers, vous les casser serait insupportable. Le concept du petit pois ou le petit pois dans l'histoire de l'art. Modèle, voilà un mot qui fait irrésistiblement penser au traditionnel nu féminin que le peintre dessine inlassablement sans jamais savoir choisir entre sa libido, qui l'invite à ne rien faire, et sa ligne trouble, qui devient une ligne bidon. Entre la libido et la ligne bidon, là est toute l'histoire de la peinture du XXe siècle. Nous renoncerons donc à nos modèles titularisés après mai 68 et qui s'approchent de l'âge de la retraite. Revenons à notre petit pois qui ne sera jamais obsolète. Cézanne aurait dit, mais il ne l'a pas dit, que celui qui sait peindre un petit pois saurait tout peindre. Que ne l'a-t-il dit ? Cela m'aurait permis de le dénoncer comme plagiaire par anticipation, comme le dit notre confrère Jacques Jouet. Cézanne, lisant cela, aurait développé son thème préféré de la sphère et du cylindre comme élément de base du corps humain. Le petit pois est donc un modèle idéal. Vous noterez que jusqu'à cet instant, nous n'avons abordé ni le thème de la couleur, ni celui du réalisme, ni du rattachement possible du petit pois, soit au paysagisme, n'est-il pas une plante, soit au minimalisme, soit encore à l'art conceptuel, cet art qui consiste à dire comment on fait, comment on pourrait faire, comment on aurait pu faire, tout cela pour éviter de faire. Consigne pour dessiner un petit pois. On le placera bien en vue des élèves, en veillant à mettre en avant les myopes et les malentendants. C'est fait. Une fois observé dans le détail de son anatomie singulière, on simplifiera le petit pois en le conduisant vers sa forme stylisée, géométrisée, c'est-à-dire le cercle parfait. Il fait le geste du cercle parfait. Nous commencerons donc notre leçon d'aujourd'hui par le petit pois d'après nature. On le pose sur une stèle, on l'observe. Il est éclairé par le haut, projetant son ombre par le bas, sur le socle, teint un modèle vivant. Il s'agit d'un éclairage classique, bien connu dans l'histoire de la peinture. Nous observerons notre petit pois durant les deux premiers trimestres. Ensuite, nous deviendrons virtuoses de la décoration en utilisant par exemple demi-cercle, un demi-petit pois si l'on veut. Avec deux demi-cercles, on obtient une figure en feston, simple et suggestive. Il fait le geste qui ne doit pas paraître obscène. Puis nous exécuterons un feston vertical plus saisissant encore. Il fait encore le geste. Séance de correction. J'ai corrigé vos exercices de la semaine dernière. Pouvez-vous me dire, mademoiselle, si vous avez déjà vu un petit pois, ce petit pois-ci ou ce petit pois-là ? Quant à vous, monsieur, un petit pois carré peut exister par compression dans la gousse, mais c'est un autre exercice que nous étudierons l'année prochaine. Et vous, mademoiselle, votre petit pois contre-jour est une belle idée lyrique, mais notez bien ceci, il est dangereux d'être en avance sur son temps. Et vous, monsieur, votre petit pois a l'air d'un nœud de Rubens. Quelle sensualité dans un simple petit pois. Maîtrisez vos pulsions, monsieur. Nous n'aborderons qu'en troisième année le galbe du corps humain, surtout féminin, en dessinant des haricots. Patience. Patience donc, monsieur. Je sais, lundi petit pois, mardi petit pois, mercredi petit pois, mais c'est en dessinant des petits pois que l'on devient un bon dessinateur de petits pois. Bien sûr, un jour viendra. Un jour reviendra où l'on regardera de nouveau n'importe quel objet comme porteur d'un changement social. Ce jour-là, on peindra notre petit pois en rouge et on lui donnera la forme d'un petit point. Programme de l'année prochaine. À la rentrée de septembre, pour le premier trimestre, les garçons et les filles étudieront le petit pois sous un aspect plus complexe encore. Puis nous commencerons le programme, toujours avec le petit pois, dont nous étudierons la lente dégradation. Je dois vous prévenir que lassé de dire toujours la même chose, j'ai décidé de simplifier les mots, de les abréger. C'est ainsi que nous dirons dorénavant « pépé » pour petit pois, PT pour premier trimestre, P tout court pour programme et COM comme pour complexe. Voici ce que cela donne pour le programme de l'année prochaine. À la rentrée de septembre, pour le PT, les garçons et les filles étudieront le PP sous un aspect plus con encore. Puis, toujours durant le PT, nous attaquerons le P tout court, toujours avec le PP, dont nous étudierons la lente dégradation. Vive le PP, vive l'Arcon.
Jacques Jouet, votre portrait d'Henri Cueco au Papou.
Cueco au Papou, avec le continuum de sa voix grave, son très léger accent du Limousin, était de ceux qui me faisaient pleurer de rire. J'irais jusqu'à dire qu'il représenta souvent pour moi le désespoir du Papou moyen. Vous savez bien, celui qui n'est pas Cueco ne le sera jamais, et qui s'entend dire plus souvent qu'à son tour « Oh, je reconnais votre voix, je suis content de mettre un visage sur une voix, je vous entends au Papou, mais Cueco, qu'est-ce qu'il est drôle !» Impossible de ne pas acquiescer. Cueco au Papou était capable d'incroyables énormités qu'il débitait d'un ton froid. Il était le seul à pouvoir scatologiser tranquillement, sans que personne y trouve à redire. Par exemple, à nous parler de la deuxième vie de ses slips, celle qui consistait à accueillir l'essuyage de ses pinceaux et qui était des sortes de peintures, de la même façon que ses petits crayons taillés étaient des sculptures. Ces peintures, justement. Au moment où je m'intéressais de près aux natures mortes pour tenter de voir ce qu'on pouvait en faire en poésie, un gros livre où le navet était le personnage principal, j'étais allé voir Cueco dans sa maison atelier de Montmagny. Je savais qu'à cette époque, il s'occupait beaucoup de pommes de terre. Moins pour les cultiver que pour les contempler et pour les peindre. Mais il y avait aussi tout plein de petites toiles qui représentaient qui un sandeau, qui des bouts de ficelle ou des trombones, des élastiques, une éponge. Je fis l'acquisition de ces cavaliers de 1984. Les cavaliers sont ces clous à deux pointes en épingle à cheveux, enjambeurs. Cette nature morte austère me parut et me paraît toujours aussi épique que la bataille de San Romano d'Uccello.
Non.
Il y avait aussi des pommes de terre. Cueco savait que j'avais publié mon livre sur, entre autres, le navet, et quelques jours plus tard, je recevais une lettre illustrée de sa main qui disait ceci. « Tu n'avais pas dépassé le coin de la rue, tu n'avais pas quitté Montmagny, qu'il me semblait que nous n'avions pas assez précisé notre projet d'édition commune. Si je n'avais perdu tout crédit auprès de la Vierge Marie, je ferais dire un Ave Maria pour que cela se réalise, bien avec toi, Cueco. » Rien d'extraordinaire. Sinon que tous les navets, tu n'avais pas dépassé, tu n'avais pas quitté, si je n'avais perdu tout crédit, un Ave Maria, était remplacé par le dessin aquarellé d'un beau navet à col mauve et petite touffe verte, tandis que le navion, nous n'avions pas assez précisé, était un navet à ailettes et à hélices qui cherchait à décoller de la page. C'était drôle, c'était beau, c'était généreux. C'était la voix chaude de Cueco, débitant au Papou une énormité de plus, d'un ton absolument placide.
Et tenez, Jacques Jouet, une illustration de ce culot tranquille, pourrait-on dire. Un certain soir au studio 104, toujours de la Maison de la Radio, Bertrand Jérôme.
Voilà, alors maintenant, je vais demander à nos éclairagistes de baisser un petit peu la lumière et vous envoyer les glaneuses. Voilà les glaneuses. Alors, ceux qui traversent le champ des glaneuses, c'est pas une corde à linge, c'est pas prévu par milliers, mais c'est parce qu'il y a des micros d'ambiance qui sont là, on est à la radio, alors les fils sont dans la trajectoire, donc ils sont là, mais c'est pas mal finalement dans le décor. Alors ce tableau est célèbre, et je l'explique un petit peu, il représente trois femmes penchées en avant dans un paysage champêtre. Au loin à droite, il y a quelques maisons, c'est un peu trouble, là vous les voyez peut-être pas, mais je vous le raconte. Au fond, chacune, et il y a une charrette de chevaux au fond, avec un cavalier sur un cheval également. Chacune des femmes porte sur la tête, ça c'est très important, un foulard. Celle de gauche a un foulard bleu, celle du milieu a un foulard rouge, celle de droite a un foulard, disons, jaune, un peu mastic. Voilà, la présence de ces femmes dans ce tableau nous intrigue fortement, et ce tableau n'est pas seulement une représentation picturale, nous estimons qu'un tableau, ça parle aussi. Alors, Cueco, votre interprétation de ce tableau.
Alors, ce sont les trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qui reviennent d'Angleterre et qui ramènent les fameux ferrets de la reine. Alors,
évidemment, comme les... Enfin, on le verra d'ailleurs, on l'entendra en tout cas, comme les gardes du cardinal risquent de les voir, ils font semblant d'être des chevaux. C'est pour ça qu'ils sont à quatre pattes. Alors, moi j'ai la coiffe rouge, je suis Porthos. Porthos, coiffe rouge. Miladio ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour sa reine ? Aramis, coiffe jaune.
Taisez-vous, les gardes du cardinal sont cachés derrière les meules de foin là-bas. Ils nous observent, et nous sommes de paisibles chevaux.
Hennisson, mes frères.
Tagadak, 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 tagadak. Tagadak, tagadak, tagadak.
Porthos hennit plus fort. Miladio.
Un cheval ne dit jamais miladio.
Un cheval ne dit jamais qu'un cheval ne dit jamais miladio.
Tagada, 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 tagada.
Et ces ferrets, bordel, qui me blessent les pieds. Que ne ferait-on pas pour sa reine ?
Miladio ! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de se ferrer avec ça. Mais que ne ferait-on pas pour sa reine ?
Et pourquoi imiter des chevaux déguisés en femmes ? Mais que ne ferait-on pas pour ça ?
Oui, pourquoi nous ferrer avec les ferrets de la reine ?
C'est une idée de Monsieur Millier, le palefrenier. Avec ces deux déguisements superposés, les gardes du cardinal doivent être perplexes. Et ça te donne du temps, Miladio !
Je sens qu'on nous observe.
Et que fait D'Artagnan, lui qui n'est ni femme ni cheval ?
Il est avec Milady de Winter.
C'est vrai, je l'aperçois dans le lointain. Il tient son chapeau, il parle avec Milady. Mais pourquoi y a-t-il une fourche et une brouette avec eux ?
Lui, au moins, n'est pas obligé de faire du cheval.
Miladio !
Tagadak, tagadak, tagadak.
Taisez-vous, écoutez.
Miladio, j'entends le bruit d'une cloche. Nous sommes perdus, c'est le signal.
Écoutez encore.
Fermez-la, bordel !
Miladio, c'est...
L'Angélus.
Nous sommes sauvés.
Porthos.
Tagadak, 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 tagadak.
Au final, en chœur, Athos, Porthos et Nice. Aramis fait le galop du cheval. Il chante. C'est l'Angélus qui sonne. C'est l'Angélus du soir. Au loin, c'est l'Angélus. Après, je sais plus. Mais...
Bon, écoutez, très bien. Bravo.
Patrice Caumont jouait le rôle d'Aramis, Patrick Beignet celui d'Athos. Vous écoutez France Culture. Il était une fois Henri Cueco au papou dans la tête. Bertrand.
Alors revenons à notre programme du jour, la recherche de témoignages inédits sur des personnalités du monde politique, artistique ou scientifique. Alors sur ces personnalités, nous avons déjà bien sûr des témoignages, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on ignore. Un personnage connu a rencontré des centaines de gens qui ont gardé un souvenir de cette rencontre. Et ce sont ces témoignages-là qui nous intéressent. Henri Cueco, vous avez sûrement la possibilité d'enrichir cette collection. À propos de quelle personnalité ?
Ce sont des témoignages personnels que j'ai jusqu'à ce jour tenus secrets. L'homme à la stature historique, le général de Gaulle, il s'agit bien de lui, que l'on croyait connu de tous, s'y révèle à la hauteur de sa réputation dans des circonstances dont j'ai été le témoin, parfois même l'acteur. C'était, je crois, à l'automne de 1967. Le général était alors président de la République. Le matin, dans mon jardin, jouxtant le parc de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, je regardais à travers le grillage passer le général en grande tenue sportive. Caleçon molletonné, casquette d'officier, gilet de peau, Marcel. Le général, dans son périple sportif, passait le long de mon jardin.
C'est pas vrai.
Écoutez, si vous ne croyez pas les documents qu'on vous apporte...
Une coquette maison,
hein. C'est une maison bien située, oui. On me l'avait prêtée, je dois dire. Enfin, c'est comme ça. Le plus souvent, pour ne pas dire en général, le général passait à grandes enjambées. 3 ou 4 lui suffisaient pour longer mon grillage. Pour voir défiler le général, je me tenais là, debout, béret à la main, de l'autre côté du grillage. Un matin, un dimanche, le général était en retard de quelques minutes sur son passage habituel. Que se passe-t-il, pensais-je, lorsque j'aperçus la première enjambée, mais il se passait quelque chose d'anormal. En effet, au cours de la seconde enjambée, le général s'arrêta. À ce moment-là, il était à 0,50 m de moi, derrière le grillage. Il y eut un temps de silence que je crus de mon devoir de rompre. je dis à travers le grillage. « Ça ne va pas, mon général ?» Il se tourna alors vers moi et sa réponse se fit comme un claquement de fouet ou un jet de vapeur. Il dit « Les burnes, c'est le nom qu'il me donna, vous me les... » Je n'entendis pas la suite. Je me répétais le son de ce que j'avais perçu, « vous me les... » Mais le général avait déjà repris le cours interrompu de la seconde enjambée et bientôt, enchaînant sur la troisième, il disparut. Je me répétais, les burnes, vous me les. Manifestement, il manquait un mot. Deux jours après, le général passa de nouveau. J'entendis le bruit de son pas. Papam, 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 papam. Si singulier qui annonçait son passage. J'allais devant mon grillage. Et le général. Il ne faut pas rire quand le général passe.
Ah, c'est plus fort que moi.
Le papam, papam du général, c'est resté célèbre. Alors.
J'allais devant mon grillage et le général qui avait perdu une chaussure s'arrêta. Je voulus saisir ma chance et je répétais la phrase d'il y a quelques jours. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon général ? Le général quitta son regard de la chaussure et dit, se retournant vers moi. « Vous me les cassez, les burnes !»« Mais pourquoi s'obstinait-il à m'appeler ainsi ? Je lui casse quoi ? Reprend-il l'histoire du vase de Soissons ? Que voulait-il me dire en réalité, à moi soi-disant les burnes ? Que lui cassais-je ? Les urnes peut-être ? Quelles urnes ? » Mais le général avait disparu de ses grandes enjambées. Plusieurs jours passèrent...
Papam, 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 papam.
Plusieurs jours passèrent, mais le général, lui, ne passait plus. Avait-il trouvé un autre chemin ? L'avais-je surpris par mon propos abrupt ? Comme je décidais d'attendre derrière mon grillage, mon obstination fut récompensée. Le bruit de pilons, de machines hydrauliques rythmées, papam, 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 qui annonçait son passage, se fit entendre. Ce furent les mêmes trois enjambées sublimes qu'à l'ordinaire qui le firent disparaître au bout de mon jardin. J'étais demeuré bouche bée. Je n'avais rien dit et j'avais obtenu, à mon absence de question, une réponse pertinente de silence. « Voilà une leçon. Voilà le grand homme, me dis-je, grand jusque dans le silence. » Ne restaient dans le chemin boueux de ce matin-là que les empreintes marquées avec précision de ces immenses baskets. J'envisageais de mouler ces marques pour la postérité lorsque le bruit saccadé du passage de quelques troupeaux me retint de sortir sur la piste. Passèrent alors, embrouillant les traces de leur frénétique vélocité, Malraux, Massu, Marcelin. Le sort avait mis pour moi les trois M ensemble. Et ces hommes, d'un mouvement de pied, réintroduisaient du désordre là où une empreinte majestueuse avait imposé la marque de son ordre. Ces événements accentuaient ma décision de rencontrer d'homme à homme le général. Je sortis donc un matin, franchissant l'ouverture secrète de ma clôture, directement sur le chemin. Je courais à contresens sans trop lever les pieds comme je l'avais vu faire aux sportifs. Enfin, au détour du dit chemin, j'aperçus le général qui, ce matin-là, courait en compagnie de Brigitte Bardot et de Malraux, qui tiraient la patte derrière. Le chemin n'était pas large et il semblait normal, moi venant de face, de nous arrêter au moment de nous croiser et de faire en sorte que la situation permette que nous échangions quelques mots. Je m'y étais préparé. De fait, les trois personnages, me voyant venir, ralentirent et s'arrêtèrent à mon niveau, de mon côté. Je m'arrêtai et lâchai au passage de Malraux et Bardot. « Alors, on s'en fait pas ?» Malraux, qui avait la réplique, dit « Non !» et suivi par Brigitte Bardot, continua son chemin. Enfin survint le général, au pas, soufflant. Sa taille, son poids en étaient sans doute la cause. Nous nous frôlions en raison de notre corpulence et bientôt nous nous coinçâmes. Bien décidé à ne pas laisser passer ma chance, je lâchai, regardant le général bien en face. « Vous êtes le plus grand, mon général !» Il me regarda à peine.
« Trouvaille, toi !»
Oui. Il me regarda à peine, ne répondit rien et continua son chemin en haussant les épaules, ce qu'il fit apparaître encore plus grand. Déçu de n'avoir rien obtenu, j'ai décidé de poursuivre et je me mis au trot. Je rejoignis bientôt le trio qui trottait devant moi. Brigitte Bardot était en troisième position et bien placé. J'admirais la régularité de son train. Le général, me voyant derrière le groupe, dit « Laissons passer, monsieur les burnes. Pourquoi s'obstinait-il à m'appeler ainsi ?» Je passais sans hâte, et au niveau du général, je lâchais. « Pardon, mon général. » Le général dit alors « Passez, mon brave. » Voilà, c'était dit. J'étais son brave. Il me traitait comme Napoléon le fit avec ses grognards. Je m'arrêtai sur le chemin, pleurant à demi, comblé comme un médaillé, et je retournais chez moi conter mon aventure, que dis-je, mon destin national à mon épouse, qui jusqu'alors, je le soupçonnais, me méprisait un peu. Aujourd'hui, il m'arrive de réfléchir sur ce destin. Je me dis, mon brave, tu es rentré dans l'histoire, mon brave. Bien sûr, sous le nom de Léburne, si difficile à porter. Pas la peine de se les casser, Léburne, je me dis, et ça me fit rire.
Oh, c'est un souvenir qu'il était bon de consigner par écrit, quand même.
L'anecdote est intéressante.
Pourquoi vous dites anecdote?
Non, enfin, c'est une anecdote
alors que c'est un fait historique.
Oui, enfin, historique, absolument. Un témoignage, inédit d'ailleurs.
Je ne l'ai pas publié encore.
Vous ne l'avez pas publié encore.
Il y a une chose quand même que je peux révéler que je n'ai jamais voulu dire, c'est que le long du chemin poussaient des petits champignons que j'allais ramasser. On les appelle des marasmes, ce que je trouvais très bien nommé à l'époque.
Henri Cueco n'était jamais très loin de la politique dans ses textes de Papou, même quand le sujet ne s'y prêtait pas forcément, comme pour cet état de choses au vide objet raconté de façon particulière.
Alors, le premier document, c'est un devoir de vacances, dont le sujet était « Qui êtes-vous ? » Nous venons de naître, nous sommes poilus sur tout le corps et douces à l'intérieur. Nous sommes ornés de motifs à carreaux géométriques, parfois brunâtres ou grisâtres. Nous avons été achetés par M. Amédée, qui nous aime bien, et nous pénètre chaque matin. Il nous choie. Nous sommes inséparables et c'est un vrai bonheur. La nuit, il nous garde près de lui, sous son lit. Nous dormons côte à côte, ma sœur gauche et moi-même. Nous sommes le symbole du confort, du calme et du repos. Nous sommes originaires des Charentes. Aussi, on nous appelle les Charentaises. Notule 1. Monsieur Amédée nous garde à ses pieds toute la journée. Nous faisons de brèves promenades et nous regardons la télévision le reste du temps. Notule 2. Au début, Monsieur Amédée nous caressait gentiment, mais maintenant il n'est plus assez souple. Aussi, il nous laisse au bout de ses pieds mal enfilés. En nous retournant, nous le voyons qui nous regarde avec tristesse. Monsieur Amédée vieillit. Il aime de moins en moins ses pieds. Ma sœur prétend que le pied gauche de M. Amédée se refroidit. Hier, le médecin est venu et a ordonné qu'on lui coupe ce pied. Qu'allons-nous devenir si on nous sépare, ma sœur et moi ?
Ah, traumatique, quelle vie !
Notule numéro 3.
J'en donne ça à lire à des enfants.
Notule numéro 3. Je suis la pantoufle droite et je reprends la rédaction de notre journal commun. Ma sœur gauche a disparu. J'espère que M. Amédée l'a replacé dans notre berceau d'origine, une boîte en carton placée sur une étagère du garage. Malheureusement, je ne peux aller voir avec ma seule jambe, car je suis devenu charentaise d'un unijambiste. Notule 4. Je ne peux en vouloir à ce pauvre M. Amédée, mais il semble qu'il va perdre sa deuxième jambe, celle que je chausse. Quelle tristesse. Je suis encore lisse de la semelle. Car M. Amédée s'appuie beaucoup sur ses béquilles. Notule 5. Ça y est, j'ai retrouvé ma sœur au garage. M. Amédée est cul-de-jatte. Il nous fait venir et il nous contemple, posé sur sa télévision. Et nous sommes retrouvés, ma sœur et moi, côte à côte. Et c'est une histoire triste.
Mais je pleure.
M. Amédée est mort. Et nous a laissé en héritage à son fils Bernard, qui ne nous aime pas et parle de nous jeter aux ordures. En attendant, comme il fait froid, il nous chausse et nous le réchauffons. Néanmoins, il nous insulte. Il n'aime pas son père. Notule numéro 7. C'est intenable. Bernard est un sale type qui nous méprise. Aussi, nous avons huilé notre semelle pour qu'elle devienne glissante. Et M. Bernard a chu en se brisant les deux jambes. Après quoi, on nous a remises côte à côte sur la télévision. Notule numéro 8. Nous sommes de nouveau devant la télévision. Bernard, lorsqu'il ne la regarde pas, nous insulte. Nous avons décidé aujourd'hui de lui régler son compte. Mais il a lui-même un fils, Charles. Et ça pourrait être pire, car lui ne porte que des baskets. Notule numéro 9. Charles, l'orphelin, nous hait. Il ne le cache pas et menace de nous jeter aux ordures l'une après l'autre. Il nous utilise comme vide-poche et nous sommes farcis de vieux chewing-gums. Il nous accuse d'avoir tué ses ancêtres. Que faire? Il est encore bien jeune et nous sommes encore en bon état. Oui, que faire, comme disait Lénine, en pensant à nos obscures fonctions d'exploiter et en regardant ses propres charentaises.
Ça, c'est stupéfiant. C'est vrai qu'on n'interroge pas assez les objets, parce que c'est un vrai drame.
Lucas Fournier, papou de presque 30 ans, nous raconte sa première rencontre avec Henri Cueco au Papou.
La première fois que j'ai vu Henri Cueco, j'ai eu l'impression de rencontrer un des héros du film des Monty Python, Le sens à la vie. On y voit des petits employés de bureau se révolter et se transformer en pirates. Un foulard rouge autour du cou en faisant de l'immeuble de leur compagnie un vaisseau d'où ils se lancent à l'abordage. Henri ressemblait à ça. Un père tranquille et rêveur, capable de devenir foutraque. Henri, comme son ami Christian Zemmer, aurait pu aussi figurer dans la troupe des nains de Blanche-Neige. Il en arborait la trogne rustique et les poils hirsutes. Henri avait les lunettes de prof et le ton rigolard de joyeux. La première fois, Henri portait une vieille veste de velours aux poches bourrées de morceaux de papier et crayons. Il aurait pu tout aussi bien avec cette tenue être marchand de charbon à Tulle ou instituteur à Userche. Quand il écrivait chez les papous, il se tenait comme un écolier, le nez sur sa feuille, traçant au crayon des lignes méticuleuses et sans ratures. Il ne manquait que le poêle à bois et on se serait retrouvé dans une ambiance de classe de campagne au siècle passé, républicaine et laïque. La première fois, je l'ai regardé lire son texte. Il avait mouillé ses lèvres pour bien articuler. Il n'a pas levé la tête pour juger de l'effet produit. Non, l'effet produit, c'était lui. Il lisait avec une voix douce et attendrie, en souriant, les yeux brillants, comme s'il découvrait avec bonheur les lignes qu'il venait d'écrire lui-même. La première fois, Henri a parlé du regard. Non pas du regard des peintres sur les choses, non, du regard qui est une pièce essentielle de la fausse sceptique.
Et oui.
Oui, et nous étions sur France Culture à la fin des années 80. Ça l'amusait de provoquer gentiment, et quelquefois pas gentiment du tout d'ailleurs. Et après le regard et la fausse sceptique, il y a eu les patates, le pétomane et le slip chiffon. Mais quel que soit le sujet, Jean Cocteau, Tarzan, Dieu, les petits pois, Cueco mettait en toute chose sa poésie rêveuse et joviale, et tout coulait comme de l'eau de source. La première fois que j'ai rencontré les papous, il n'y avait que des personnages illustres autour de la table. Tous intimidants, sauf lui. Je ne savais pas qu'il était un peintre consacré. Il m'a parlé de champignons et de rugby. Il avait joué talonneur et en avait le nez tout cabossé. La première fois que j'ai entendu Cueco parler à Bertrand Jérôme, j'ai été étonné. Bertrand Jérôme était notre créateur, aimé de tous, même des plus insupportables. Henri disait « vous » en s'adressant à Bertrand.
Ouais.
Et il était le seul, je crois, d'entre nous à avoir choisi l'élégance du « vous » comme pour mettre un peu de pudeur sur ses sentiments, comme pour surtout ne pas montrer qu'il était d'abord un cœur tendre.
Et oui. Alors, il y a des personnalités qui revenaient sous la plume de Cueco au fil de nos contraintes de jeu papou, De Gaulle, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais aussi Tino Rossi, ne cherchez pas le rapport, une lettre inattendue.
C'est une lettre d'un dénommé Wolfgang Amadeus Mozart, qui écrit à Monsieur Tino Rossi, chemin des mules, route du paradis. Parce que il a appris que Tino Rossi était en route vers le paradis où il se trouve lui actuellement. Cher Tino, j'ai honte. Je viens seulement de vous découvrir. Vous savez, nous sommes ici en résidence avec quelques confrères et nous ne savons pas si nous demeurons en paradis ou en enfer. Non seulement nous recevons avec retard les partitions et les disques de ceux qui nous ont succédé, mais Beethoven, Schubert, Schumann, Berlioz et quelques autres les fauchent ou même les brûlent. Ici, tout flambe. En ce qui vous concerne, c'est cela qui vous intéresse, votre œuvre est pour moi une révélation. Votre musique, vos textes, votre façon de chanter et surtout votre voix me bouleverse. Tout cela m'évoque tant de jolies femmes que j'ai connues et dont je n'ai obtenu que des meublements sans commune mesure avec vos roucoulements, comme on en écoute ici, loin d'être aussi beau que les vôtres, auprès du Père éternel, devenu éternellement sourd et qui croit vous imiter. Mais d'où vous vient ce succès ? Certes, je n'ai pas à me plaindre à titre posthume, mais nous sommes si proches que je n'arrive pas à imaginer que vos compiles ne puissent voisiner sur les mêmes étagères que mes œuvres. Tout d'abord, permettez que je vous félicite pour votre « Oh, Catarina la Bella, Chichi ». Écoute, l'amour t'appelle, Chichi. À côté du anodin Papageno, papa, 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 etc., j'ai un peu honte. Pardonnez ma voix. Ici, on ne chante que des psaumes. Vous avez compris comme moi que la chanson témoigne de l'activité sexuelle de l'homme au temps où elle est à son potentiel optimal. Ah, la jeunesse, Mais votre génie est d'avoir accroché votre voix à vos testicules comme une couronne de fleurs odorantes qui les dissimulerait et les mettrait en valeur en même temps. Être homme et femme tout à la fois. Bravo, Tino. La virilité n'est que le vulgaire déguisement de notre féminité. Vous avez réalisé ce que j'ai toujours rêvé de faire. Toucher un vaste public avec des images ordinaires. Par-delà votre violence contenue, dans votre voix, je reconnais votre ambiguïté sexuelle si chère aux femmes d'un certain âge. Vous me rappelez ces abbés en soutane dont le succès dépendait de la curiosité qu'ils inspiraient aux personnes des deux sexes et aux jeunes gens. Curiosité trouble sans doute, délicieusement perverse. Je crois au fond que c'est ainsi que j'ai rêvé Don Juan, un libertin tenté par la mort et d'une virilité mise en doute par une voix de femme. Mais dites-moi, avez-vous été aimé des femmes autant qu'on le dit ? Les avez-vous fait souffrir, soit par excès, soit par défaut ? Qui est cette Marinella qui reste encore dans vos bras ? Avec qui vous allez jusqu'au jour danser cette rumba d'amour ? Êtes-vous Alma Viva exerçant un droit de cuissage ou Don Giovanni pliant à ses désirs une Zerline intimidée ou torturant par sadisme une Donna Anna vertueuse et importune ? Ah ! Que n'ai-je eu comme vous, un librettiste amoureux se permettant d'écrire « Ce soir, si tu veux, la 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 la
Certes, il connaît tout le répertoire.
Je ne peux pas... Certes, je ne peux pas vous reprocher de m'avoir imité comme tant de vos confrères, mais reconnaissez qu'il y a des ressemblances, du Mozart chez vous et du Tino chez moi. Est-ce que Monostatos chante dans la flûte enchantée à Pamina pourrait être de vous ? C'est pourquoi, tant que je vivrai, je peux prodiguer caresses, tendresse et baisers. Madame la Lune, pardonnez-moi. Quant à moi, je n'ai pas su faire dire à Figaro, adorant sa chère Suzanne, « Marie Tournelle, c'est la plus belle. Écoutez-la chanter le soir. Et mes blancs moutons se sont endormis. » Lorsqu'on vous a appelé le Mozartino de la chanson et que vous avez prétendu ce jour-là ne pas me connaître, j'en ai eu quelques dépits et je l'avoue, je vous en ai voulu. Mais aujourd'hui, je viens de recevoir votre album que vous m'avez si gentiment dédicacé. Je ne me lasse pas. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des joujoux par milliers.
Oui, pas nous la chanter.
Pas mes petits souliers. Non, mais je ne résiste pas au plaisir de vous chanter ce passage. Ah, que j'aime tes beaux yeux sont des étoiles, oh Paquita, mon amour. Et quand ton regard se voile, tout mon cœur bat sans retour. Tes beaux yeux sont des étoiles au firmament de mes jours. J'aurais aimé faire chanter à Zerline, après que son cœur eût été abusé par Don Juan. C'est un chagrin d'amour, chagrin de tous les jours. On se dit pour toujours, mais toujours c'est bien court. Ha 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 ha. Bonheur trop court. Ha 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 ha. Chagrin d'amour. Mais dites-moi, ce Maurice Mander, votre compositeur, n'est pas si mal. Et lorsque vous avez un chagrin d'amour, quel artiste de le dire simplement. Mais je ne résiste pas à chanter encore. Marie Tournelle, c'est la plus belle. Écoute-la chanter le soir, le vent l'emporte près de la porte. Ou sur le banc, tu viens t'asseoir. La lune blanche vers toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire et semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Et cette merveilleuse remontée du chant, comme une plainte intime après avoir souffert en demi-teinte, dans la douceur du soir, entends Marie Tournelle. J'irai bientôt te voir, eh oh, eh oh. Entends mon chant d'espoir, eh oh, bonsoir. Mon cœur te dit bonsoir, eh oh, eh oh. Entends mon chant d'espoir, eh oh, bonsoir. Je vais terminer ma lettre, car il paraît que je dérange mes camarades de chambre. Beethoven râle, bien qu'il n'entende pas grand-chose, mais il s'est mis au tricot et tout le dérange lorsqu'il compte ses mailles. Berlioz est furieux que l'on fasse plus de bruit que lui. Il n'y a que ce vœu débauché d'Offenbach qui rigole en m'écoutant chantonner vos merveilleuses mélodies. Cher Tino, je sais que vous êtes déjà parti pour nous rejoindre, mais vous êtes si loin à venir. Sans doute chantez-vous en route. Dans le chemin du retour, qu'il fait beau chaque jour. C'est le chemin merveilleux où l'on a du soleil plein les yeux. Voilà, je n'en finirai pas de me chanter vos mélodies en entendant votre voix douce comme une confiture de miel. J'espère que cette lettre vous parviendra. Vous revoir et vous recevoir parmi nous sera un honneur. Wolfgang Amadeus Mozart.
Il y a la partition sur la lettre ou il y a...
Non, mais comment vous... moi, je chante, je me suis entraîné.
Vous êtes entraîné.
Je me suis entraîné, oui.
Pour le lire, oui. Non, un beau travail de préparation.
Mais vous n'allez pas imaginer que c'est moi qui l'ai écrite.
Ah non, pas du tout. Mais
votre soupçon me blesserait.
Non, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Non, je disais, on peut toujours soupçonner ce genre. Non, pas vous soupçonnez vous, bien sûr. Mais votre habileté à chanter ce répertoire laisse à penser que quand vous faites vos magnifiques tableaux. Vous chantonnez comme ça.
Mais personne ne le sait jusqu'à présent. C'est vrai qu'un rapport avec Mozart chez moi est indiscutable.
Écoutez France Culture. Il était une fois Henri Cueco au papou dans la tête. Cueco, il se prêtait à tous nos jeux avec simplicité et enthousiasme. Il aimait jouer, il aimait faire rire ses camarades de jeu, comme avec cette expérience de tourisme minimal qui reste une des plus belles du genre.
Dans mon demi-sommeil du matin, je décidai ce jour-là de partir en voyage. Cela me fit rire de joie et il se produisit un petit claquement de bridge mal accroché contre mes incisives. « Tu dors pas ?» demanda ma compagne. Bêtement, je répondis « Oui, ne sachant jamais si oui dans ce cas-là signifie qu'on ne dort pas, qu'on acquiesce, ou au contraire, ce qui rend la réponse encore plus absurde, qu'on dort. » Il se fit un silence.
J'ai beaucoup vécu.
Je me retournai alors et mimai une respiration régulière et légèrement ronflante pour imiter le sommeil, cependant que je poursuivais intérieurement les préparatifs de mon projet de voyage. Ma décision était prise. J'irai visiter le Mont Plumard, qui surplombe le bois de Lys. J'attendis d'être seul avant de commencer mon exploration. Comme ma compagne avait tiré les rideaux, un rayon de soleil réchauffait le Mont Plumard et la douceur du Mont Oreiller me sembla de bon augure pour ma randonnée solitaire. Sous le Mont Oreiller, le cours du traversin me parut interminable et je le traversai en quelques brasses. Le lit du traversin était sec, me sentais bien. Et sans mettre les pieds à terre, je fis le trajet aller-retour plusieurs fois. Je respirais profondément tout en admirant le ciel de Lys particulièrement limpide sous le soleil qui me réchauffait. Je me souviens maintenant que je profitais de ce moment de calme pour me gratter. J'avais observé cette manifestation du bien-être chez les mulets et certains chevaux qui se roulaient par terre les pattes en l'air, selon l'expression, gagnaient ainsi leur avoine. Je me grattais le dos contre les draps, plutôt rugueux, qui observaient en vue rasante ressemblaient par leur blancheur à un champ de neige. Je renouvelai ma grattaison et je décidai de continuer ma randonnée au Mont Plumard si je voulais être de retour pour le déjeuner de midi. Il me restait en effet à parcourir la grande plaine du Matelas qui s'étend de Traversin à Sous-les-Draps, tout au fond, vers l'aplomb du pied du Lys. À Sous-les-Draps, le jour n'était pas encore levé. Il faisait entre chien et loup et je me dirigeais à tâtons. Ai-je dit que je m'étais dévêtu, débarrassé de mon pyjama d'excursion à cause de la chaleur solaire, et que j'allais vers Sous-les-Draps, espérant atteindre pied du Lys au plus tôt, car il fallait compter avec le temps de retour. J'avançais comme un nageur, à grande brassée vers les profondeurs de Sous-les-Draps, là où en plein jour, on ne voit rien. Le manque d'air à cet endroit me fit penser que l'atmosphère n'était guère ventilée et qu'il y macérait des odeurs de nuit, des parfums subtils, des fragrances complexes.
Allons bon.
Je demeurai là, au bout du matelas, à Sous-les-Draps, juste au bord du lieu-dit pied du Lys, où la plaine du matelas s'arrête de façon abrupte. Je sentais la chaleur extérieure sur mes pieds, demeurer au Mont Oreiller, et je leur demandai de manifester leur contentement en remuant leurs orteils. Ce qu'ils firent, me sembla-t-il, sans que je puisse vérifier si cette manifestation était suffisamment marquée. Combien de temps restais-je là, allant d'une extrémité à l'autre de la plaine du matelas qui surplombe le plateau du sommier de quelques centimètres, toujours à Sous-les-Draps et même au-delà, au bord de la couette. Je crois que c'est à ce même moment que j'ai eu un frémissement érectile qui, en soulevant les draps et la couette, aurait pu perturber le paysage jusqu'au Mont Oreiller. Maître de mes pulsions, j'y renonçais. Au bord de la couette, j'ai barboté un peu et j'ai même pu voir au-delà de Sous-les-Draps la tache brûlante du soleil. Mais je fais vite demi-tour.
Je trouvais l'ombre dessous les draps plus reposante. Je pense même que je me suis endormi un moment. Et je me souviens que j'ai rêvé que j'étais un petit garçon et que je parcourais le corps d'une gérante. C'est une sonnerie de réveil lointain qui m'éveilla. J'avais mis le réveil par prudence pour me permettre d'être de retour à l'heure du repas et regretter à ce moment-là de l'excursion de ne pas avoir apporté avec moi le sandwich à la mayonnaise et aux œufs durs qui sont de beaux souvenirs d'enfance. J'entrepris donc de retourner vers le mont Traversin. J'eus quelques difficultés à m'orienter et surtout, je ne savais pas quelle technique de contorsion utiliser pour revenir. Devais-je rentrer les pieds pour les placer là où se trouvait ma tête? Ou devais-je me tordre au point de placer ma tête sur le bord du traversin et les pieds sur l'autre rive? Il y eut un moment d'angoisse, et sans savoir au juste comment, je réussis à me retrouver à mon point de départ. J'étais rompu par mon exercice matinal, et je fermais les yeux. C'est à ce moment-là que le ciel de lit se mit à gronder, comme par temps d'orage. Il y eut une voix qui hurla « Debout, fainéant, il fait beau partout !» C'est ce beau partout qui me sembla étrange. Moi qui venais du pays obscur de sous les draps au bord du pied du lit, où jamais le soleil ne se lève sur la plaine obscure du matelas. Puis je passai à table, où sans dire mot, je fis plusieurs fois le tour du mont-assiette avant de plonger dans le lac potage.
Ah, vous prenez du potage au petit déjeuner? C'était à quelle heure?
Chaque fois que je fais une excursion de ce genre, je prends du potage. Ah oui.
Hélène Delaveau avait testé pour nous cette expérience de tourisme minimal de Cueco. Hélène?
Quand j'ai lu la proposition d'Henri Cueco, j'ai tout de suite été tentée. Parce qu'Henri Cueco, je me suis dit, il est professeur aux Beaux-Arts, il parle à France Culture, c'est une garantie de sérieux.
C'est vrai.
Je me suis donc inscrite pour la balade au Mont-Plumard. Alors je suis arrivé équipé d'une chemise de nuit et d'une bouillotte quand même, parce que j'avais entendu dire que dans ce genre d'endroit, il fait quelquefois un peu frais, au niveau des pieds surtout. Alors j'ai abordé le mont par la face nord, le mont Plumard donc, et j'étais très contente de constater que c'était bien au nord que se trouvait le mont Oreiller, parce qu'on dit toujours que c'est mieux de dormir la tête au nord. Alors le guide ne précisait pas s'il était recommandé d'aborder le mont sur les genoux ou sur les fesses. Parce qu'il y a deux façons de monter. Alors prudemment, j'ai opté pour les genoux. Bon. J'étais un peu surprise, je dois dire, par la hauteur du mont. Vu par en dessus, quand on surplombe la plaine du matelas, il n'avait pas l'air si escarpé. Le revêtement était assez doux, mais le remplissage était en mousse. Alors, et la mousse, ça résiste. Alors ça, j'étais un petit peu déçue. J'avais le cou un peu plié quand ma tête a établi le contact. J'ai opéré un quart de tour, j'ai laissé ma tête dévaler la pente du mont Oreiller jusqu'au cours du traversin qui serpentait curieusement vers la région méridionale. Il fallait s'accrocher. Et ma chemise de nuit s'est mise en boule, ce qui m'a causé 3 secondes de panique. Heureusement, j'ai eu le réflexe d'imprimer à ma cage thoracique un rapide soulèvement en prenant appui sur l'épaule droite qui a très bien réagi, je dois reconnaître, et ma chemise s'est dépliée. Ouf. Je me suis retrouvé à plat ventre, au fond du cours du traversin, sain et sauve. Le traversin était pratiquement à sec, mais on y décelait encore quelques gouttes de rosée matinale. Pas désagréable. Au froissage du sol, j'ai cru déceler le récent passage d'un animal. Je me suis demandé s'il y avait des loups dans la région. À un moment, le cours du traversin s'arrêtait brusquement et je me suis retrouvé surplombant la plaine du matelas, d'un aspect plutôt vide et désolé, présentant à peine quelques plis pour briser la monotonie du paysage. Un draus, sans doute, me suis-je dit mélancoliquement. Reste toujours tendu. J'ai eu un petit moment de nostalgie pour le temps d'avant les couettes, où les draps faisaient plein de plis, gardant les traces des folles étreintes. Enfin, bon. Heureusement, la caverne de sous les draps se profilait à l'horizon avec sa promesse d'ombre fraîche. Alors je m'approchais toujours rampant, et j'abordais l'antre mystérieux. Surprise ! L'ombre ne procurait aucune fraîcheur. J'ai plutôt l'impression de pénétrer dans une forêt équatoriale. Chaleur lourde et humide, un parfum animal, et au fond un ronronnement comme de tigre à l'affût. J'ai eu à peine le temps de me réjouir de la perspective d'une belle aventure, avant d'entendre un rugissement tonitruant de sentir deux pattes velues venir s'agripper à mon cou et d'apercevoir deux yeux luisants dans l'obscurité surmontés d'une abondante crinière de poils blancs.
Mais et vous insinuez que j'étais là.
C'est vous qui direz la conclusion.
C'est, alors c'est tentant, donc on peut...
On peut recommander.
Oui. Ah, c'est plein d'émotions diverses. Oui, c'est assez excitant.
Oui, on va tomber dans le tourisme de masse.
Musique de Jean-Claude Vanier et sa voix aussi, qui nous servait d'indicatif de fin des Décraqués. Gérard Mordillat prenait souvent le chemin du métro avec Henri Cueco après les séances. Quelques souvenirs.
Cueco, au Papou, c'était Madame Sans Gêne, n'hésitant pas, à l'instar de Tabarin, inspirateur de Molière, à débattre gravement des mérites comparés du cul d'un gentilhomme et de celui d'un paysan. Le cul d'un gros villageois ne sent pas si mauvais que celui d'un gentilhomme. Ouvrez les narines, l'odeur vous montera au cerveau, cela vous confortera les hypopondries de l'entendement. Merde, reste de terre, disait Goethe, et la terre n'était pas pour rien, pour notre jardinier, spécialiste de la pomme de terre, des bons mots et de la sagacité critique face au tableau de la grande tradition picturale jusqu'à la plus récente actualité. Car, sous ses allures de rustre corrézien mal rasé, Cueco était un raffiné, un savant, un délicat qui s'amusait à se donner en spectacle au contraire de ce qu'il était. Et c'est tout naturellement que son nom fut choisi lors de la création du prix littéraire des Papous, les Cueco de la littérature. Un prix d'excellence pastichière dont le trophée était un crayon offert par l'artiste. Plus exactement, un rogaton de crayon, usé plus qu'usé sur la planche à dessin.
Mais très bien taillé, toujours, j'en ai un.
Et ce crayon était accompagné d'une poignée de rognures de bois pour faire joli. Ouais. Un crayon qui a vécu et qui vivra encore longtemps exposé à la meilleure place dans la bibliothèque du récipiendaire. Vous, par exemple. Ouais. Quel meilleur symbole trouver ? Ce crayon témoignait d'une endurance, d'une solidité, d'une capacité à aller jusqu'au bout qui caractérisait absolument Cueco.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il joue aux homophonies approximatives et qu'il fallait bien chuter sur une homophonie et que ce n'était pas toujours évident, eh bien, il procédait par circonvolution, mais il y arrivait au bout du compte. L'arrêt au beurre noir, Henri Cueco.
L'arrêt au beurre noir, je la digérais mal, voilà tout. Elle ne passait pas. Trop de beurre, trop d'arêtes, et surtout pas assez fraîche, avec un arrière-goût alcalin qu'un petit blanc acide et vinaigré n'arrivait pas à faire disparaître.
Assez désagréable, vous me reconnaissez.
Je l'avais sur l'estomac. Un cataplasme, l'arêt, bien vivante et remuant ses immenses oreilles d'éléphant blanc. Dans l'autobus, gare du Nord-Opéra, assis face à un clergyman que j'imaginais anglais sans trop savoir pourquoi, je luttais contre l'envie de vomir, contre l'aversion que m'inspirait l'humanité entière, et surtout l'humanité dimanche, dont le vendeur m'avait encore réveillé tôt ce matin. L'autobus s'arrêta devant un cinéma où on rejouait le dernier tango à Paris. J'éructais. L'arrêt au beurre. Pensais-je, on devrait faire des films porno à la margarine. Cette plaisanterie à laquelle je venais spontanément de me livrer m'affligea. Oui, plus fort
nous
que moi.
D'ailleurs.
Quand je digère mal, je deviens vulgaire. Laissez-moi quand même l'initiative de mon texte et de mes autocritiques. C'est la digestion, me dis-je, et je me morigénais aussitôt, m'obligeant à quelques méditations. Le clergyman m'observait en caressant le cuir d'un livre relié, un bréviaire, pensais-je, qu'il feuilletait au moyen d'un marque-page en satin rose qui évoquait une jarretelle. Je voyais ça confusément tout en essayant de me livrer à ces pensées transcendantales qui, si en général ne me mènent pas loin, m'éloigne un instant du quotidien vulgaire. J'hésitais comme toujours entre mes sujets favoris, l'inexistence de Dieu, l'inutilité d'être pauvre, la gourmandise est-elle un péché ? L'art, surtout l'art, car on peut penser ce qu'on voudra, seul l'art élève l'esprit. Et je regardais le plafond de l'autobus, l'art m'oblige souvent à regarder les plafonds d'autobus. Le clergyman semblait sur mon exemple y rechercher lui aussi quelque élévation. L'art est noble, pensais-je, l'art est haut, Seul l'art peut nous sauver de la vulgarité, nous enivrer. Je m'exaltais. Enivre-nous, me disais-je, en forme de supplication. Soule-nous, beurre-nous, me disais-je encore plus familièrement. Il m'arrive d'être familier avec moi. L'art est au beurre-nous, art.
Comment? L'art est au. C'est pas fini.
L'art est au beurre-nous, art. Mais le clergyman s'agitait devant moi, essayait de percer le mur de ma méditation. Il me parlait. Et ses paroles, confusément d'abord, me parvinrent plus distinctement. Here, where we are, what is the next station, please? Here, répétai-je en bredouillant le peu d'anglais dont je fais usage. Here, nous are station Aubert, pré-opéra. Opéra, dit-il inquiet en se levant. No, no, pas opéra. Here, nous are Aubert. Aubert Station, l'arrêt Aubert Noir. Il descendit soudain, pâle comme s'il avait lui aussi des difficultés digestives. Je le suivis des yeux et il répétait sur le boulevard en faisant de grands gestes. L'arrêt Aubert Noir, l'arrêt Aubert Noir.
Tu vois, tu parles bien anglais. Tout à l'heure, il parlait d'anglais, il n'avait pas enfilé un mot.
Mais vrai. Là, j'avais besoin d'un accent et puis j'ai fait des progrès.
Une homophonie bilingue.
Ah, oui. Absolument bilingue.
Ah oui, ça c'est marrant. Bien.
Elle est impeccable. Hein.
Le thème sa mort.
C'est musical.
C'est très musical.
Oui, ouais, mon texte est musical.
Il procède par approximation successive.
On assimile.
Non, parce que le nous, art, il faut quand même l'avancer progressivement.
Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est très astucieux. C'est une autre école. C'est oui, pas l'école de la surprise.
Non, c'est WM au football. Quoi. C'est pas...
Il était une fois Henri Cueco, Papou dans la tête. Vous écoutez France Culture. Un numéro des Papous à podcaster sur franceculture.fr. Henri Cueco, retour au presque rien.
Le presque rien, on l'aura compris, n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas non plus le rien du tout, qui est moins que le pas grand-chose, lequel pas grand-chose proche du presque rien n'est pas tout à fait rien. Si j'ai choisi le presque rien et non pas le rien tout court, c'est pour réveiller votre imaginaire qui se trouvera suspendu dans le vide entre un pôle matérialiste, le presque rien ou le si peu que ce soit, et le pas grand-chose qui rejoint les tentations mystiques.
C'est très compliqué, vous devriez parler un petit peu moins vite quand même, il faut suivre.
Mais si je vais moins vite, je comprends rien moi-même.
Un dernier souvenir avec Cueco pour aujourd'hui. Cueco en public, toujours sur la scène du studio 104, c'était notre studio public, avec Hervé Le Tellier, François Karadec, Dominique Muller, Lucas Fournier, Vassilis Alexakis et Bertrand Jérôme.
LSD, les strabismes divergents, tentative d'interprétation d'un tableau célèbre, le serment des Horaces de David.
Dominique Muller et Hervé Le Tellier, vous avez une reproduction du tableau devant vous.
Sous les yeux, oui.
Vous pouvez nous le décrire objectivement? Qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau?
Moi, je vais laisser Dominique, parce que je ne suis pas très objectif. Dominique.
Alors, en toute objectivité, je vois un monsieur en sortie de bain rouge au milieu du tableau,
oui,
qui est en train de brandir des brochettes à trois hommes qui ont très faim. Et les femmes derrière sont extrêmement tristes parce qu'elles ne vont pas en avoir. C'est bien ça.
François Karadec, qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau?
Moi, je vois l'aéroport de Roissy. À gauche, les manifestants. Au milieu, Attali. Et à droite, des voyageurs qui attendent dans les salles d'attente. Et alors, non. On voit qu'au milieu, il y a des. Attali tient des espèces de morceaux de ferraille qui sont des bouts d'avion.
Oui, d'accord. Non, soyons sérieux.
À peu près tout ce qui reste.
Lucas Fournier, une vraie description objective.
Là, nous avons des spectateurs qui regardent ce tableau, mais ce que nous faisons actuellement va être diffusé à la radio. Il faut absolument que l'on décrive objectivement ce tableau. Ce tableau représente Lucas Fournier.
Vous pouvez le diffuser dans 15 jours, le sens sera toujours le même.
Laissez parler votre camarade, s'il vous plaît. Lucas Fournier.
Donc, au centre, un jeune homme barbu portant des épées. Lui faisant face, trois jeunes gens qui brandissent le bras, plutôt le bras droit d'ailleurs. L'un est armé d'une lance, et ils ont un casque sur la tête. Et derrière le monsieur du centre, trois ou quatre jeunes femmes, apparemment très dépitées, très déprimées, en larmes. Un peu les vestiaires de l'équipe de France de football après France-Israël, vous voyez.
C'est vrai que c'est pas très drôle de décrire objectivement un tableau. Vassilis Alexakis et Kweko, vous avez été chargé d'étudier tout spécialement ce tableau. Vous allez vous placer au micro qui sont sur pied, là-bas, debout.
Ce que vous verrez davantage.
Oui, oui, oui.
Vous choisissez un micro à votre taille.
Et nous allons vous... Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, Vassilis Alexakis, sur cette interprétation? Non, je suppose.
Je ne suis pas d'accord avec cette explication du tout. Il faut rappeler que David a été élevé chez les pères et qu'il a donné à son œuvre un titre trompeur. En fait, la scène se passe en Grèce, vers 1250 avant Jésus-Christ. On peut la dater avec précision, d'abord grâce à l'aspect grossier des colonnes. La cannelure, le chapiteau n'ont pas encore été inventés. La civilisation grecque n'a pas véritablement pris son départ. On l'envisage, on la pressent, on la subodore, on sent que ça vient, mais c'est pas encore ça. On peut remarquer d'autre part que tous les personnages debout ont les jambes anormalement écartées. Si à l'intérieur des maisons on couvrait soigneusement le sol de dalles, on ne prenait aucun soin à l'époque des rues et des espaces publics qui étaient fortement accidentés. Il n'y avait ni trottoir ni chaussée. Des ruisseaux filaient dans tous les sens, des trous béants s'ouvraient un peu partout, des tas d'ordures sans nombre se dressaient. Bref, pour dépasser ces divers obstacles, les gens avaient pris l'habitude de marcher en faisant des pas énormes. Et venons-en maintenant à la signification du tableau et remarquons, pour commencer, la tristesse. Il y a au fond une femme à gauche, non à droite, avec deux enfants, on ne les voit pas très bien ici.
Non, effectivement, ouais, si, oui.
Bon, en tout cas, on peut lire une profonde tristesse dans le regard de la mère. Et elle sait que sa famille ne s'agrandira plus, c'est la cause de sa tristesse. Qu'elle ne mettra pas au monde d'autres enfants que les deux qui sont là. C'est une décision sage, certes, car son mari, Agathoclès, qui occupe le centre de l'œuvre, n'a pas beaucoup de moyens. On peut d'ailleurs remarquer que cette famille n'a pas de meubles et pas le moindre tableau sur les murs. Mais les sages décisions ne sont pas forcément agréables à prendre. Alors, ce tableau annonce ensemble la naissance de la famille moderne, qui, comme on le sait, ne compte que deux enfants. Considérons à présent les deux autres femmes, un peu plus jeunes, qui ont l'air sinistrées. Elles viennent de découvrir, les malheureuses, que leurs petits amis, les soldats Homophilos et Pédakis, à gauche du tableau, sont homosexuels. La façon dont Homophilos tient Pédakis par la taille, en le serrant un peu, ne permet aucun doute là-dessus. En ce qui concerne le troisième soldat, on peut penser qu'il a les mêmes goûts que les deux autres, mais je crois surtout que David l'a placé à cet endroit juste pour équilibrer son tableau. Il considérait l'espace pictural un peu comme une barque où les valises et les passagers doivent être judicieusement répartis. Que réclament donc les trois soldats au père Agathoclès? Non pas leurs épées comme on pourrait le penser, le moment est venu d'expliquer pourquoi ces épées n'ont pas la couleur du bronze. Pourquoi elles sont blanchâtres, blafardes, comme des épées de fantômes. Le père Agathoclès vient d'inventer le préservatif, d'où son attitude triomphante. Il en a réalisé trois. Pour tester leur solidité, il a enfilé à l'intérieur de chacun une épée pointue. Eh bien, ils n'ont pas craqué. On me dirait qu'ils sont un peu grands pour des préservatifs. Je ferai remarquer d'une part qu'ils sont tendus à l'extrême et d'autre part que les espèces de jupettes portées par tous les hommes ne sont pas bien courtes non plus. Les trois soldats désireux d'éviter les maladies sont donc venus se saisir des préservatifs. Mais attendez, semble dire Agathoclès, je vais en garder au moins un pour moi. Ce tableau aurait dû s'intituler « Triomphe de l'amour libre ». Mais, comme je l'ai dit au début, David avait été élevé chez les pères.
Alors, Kweko, votre interprétation de ce tableau?
Alors, tout d'abord, je n'ai rien compris de ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais je récuse totalement, néanmoins, leur interprétation. d'après moi, la scène représente l'ouverture d'un chantier destiné à la pose de rideaux, au domicile d'un riche propriétaire dénommé Horace. Les ouvriers et le contremaître viennent d'arriver, ils sont en tenue de travail. À un signal donné, le contremaître distribue des tingles à rideaux décoratives. Elles sont ornées de motifs en forme de boules et de poignées, comme c'est fréquent chez Bricologie. Le contremaître a sur l'épaule les laits de rideaux qu'il va distribuer. Les trois ouvriers tendent la main vers les tringles à rideaux et le contremaître va donner le signal du départ. Il compte sans doute un, deux ou trois, mais il faut le silence pour l'entendre, sinon vous n'entendez pas. Comme pour le départ d'une course. Solidaires et unitaires, peut-être syndiqués, les ouvriers se tiennent par la taille. Ils ont sur la tête des sortes de casques à aigrettes ou balayettes qu'ils utilisent pour nettoyer les plafonds pendant qu'ils sont en train de peindre les murs. Ça a permis d'en licencier quelques-uns. Leur tenue, la robe, est très fréquemment utilisée dans les entreprises pour activer le travail à l'échelle. La robe permet des mouvements amples, alors que le pantalon est souvent serré ou dissimule la perruque. La perruque, c'est la fauche, c'est un terme d'argot. Vous avez eu peur encore que je dise des bêtises. En effet, la robe est obligatoire chez les tapissiers pour éviter justement la perruque. Certains tapissiers mal payés se faisaient des gratifications à l'époque en dérobant des tissus qu'ils dissimulaient sous leurs vêtements. Avec la robe, on voit la perruque. L'ouvrier de gauche tient un rouleur à la main ou un pinceau sur long manche pour peindre les plafonds ou le haut des murs. À droite, les couturières prennent un moment de repos. Elles sont encore couvertes de rideaux, elles aussi. Une mère sermonne les enfants qui ont déjà l'âge de travailler et qu'on utilise pour plomber les rideaux. Dans la version de la collection Wildenstein, à droite de la toile, il y a au sol une sorte de poulet embroché, reste d'un casse-croûte, thème assez classique des chantiers du bâtiment et de la nature morte qu'on retrouvera plus tard chez Picasso ou Cézanne. Je dois dire qu'il y a une autre interprétation qui est un petit peu savante, mais je peux quand même vous en faire part. Cette peinture, une peinture qui est à la fois une narration, est en même temps tournée vers la peinture. C'est une sorte de manifeste anticipant sur le mouvement qui va naître dans les années 60 sous le nom de support surface et que déjà, justement, par anticipation, nous appelions déjà store surface. Voilà, je crois que j'ai terminé.
Rideau.
Il était une fois Henri Cueco, Papou dans la tête. Une émission à retrouver sur franceculture.fr pour le podcast. Les commentaires, c'est sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. Merci à Lina d'avoir précieusement conservé tous les Décraqués et Papou dans la tête depuis le début. Parenthèse, rappel, vous avez rendez-vous avec nous vendredi 16 juin à 20h au studio 105 de la Maison de la Radio pour le dernier enregistrement public de la saison mariage au Papou dans la tête. Réservation sur maisondelaradio.fr, maisondelaradio.fr, tout attaché. Au revoir, rendez-vous dimanche à 12h50. Passez un bel après-midi à l'écoute de France Culture. Quoi?